Bonjour Cynthia Fleury.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un essai philosophique paru en 2010, La fin du courage, qui connaît une belle destinée avec aujourd'hui une adaptation théâtrale, une lecture par Isabelle Adjani et Laure Calamy pour 5 représentations sur la scène de la Scala à Paris du 17 au 21 décembre. Il se passe quelque chose autour de cette notion de courage revendiquée par beaucoup, explorée par plusieurs auteurs. Vous avez été pionnière là-dessus, Cynthia Fleury. Pourquoi notre époque s'intéresse-t-elle au courage et pourquoi elle en parle autant ?
Je crois qu'elle, on a compris à quel point le courage était régulateur. Quand j'ai écrit La fin du courage, il y avait une phase d'érosion, comme si le courage était obsolète, c'était quelque chose qui était nécessaire en temps de guerre, mais certainement pas en temps de paix. Et puis, si vous voulez, il y a un tel détricotage, entre guillemets, de l'état social, qui fait que, tout d'un coup, on retourne à à une nécessité du conflit, voire du combat.
Alors, pour vous ramener à l'actualité, on est en plein conflit sur les retraites, on a un gouvernement qui se dit courageux d'engager une telle réforme, on a des grévistes qui expliquent que c'est courageux de cesser le travail et de se priver de salaire, et aussi des non-grévistes qui sont regardés comme courageux quand ils prennent le volant de leur bus sous les insultes de leurs camarades grévistes. Le courage, il est partout ou il est nulle part, Cynthia Fleury ?
Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Alors, le courage, il est plastique et il est toujours relationnel. C'est-à-dire que, oui, de fait, ce qui est courageux pour moi ne le sera pas nécessairement pour toi, puisque nos peurs ne sont pas au même endroit, nos enjeux ne sont pas les mêmes. Alors, vous avez raison, il faudrait quand même un peu une convergence, non pas des luttes, mais une convergence du courage, au sens où le courage, il a quand même un objet normalement de co-construction. C'est pas que la rupture, c'est bien sûr aussi la rupture, mais dans une société d'état de droit, c'est à un moment donné le courage de bâtir pour l'avenir.
C'est pas être irresponsable.
Ce n'est pas être irresponsable, ce n'est pas non plus être dans le caractère intempestif, c'est pas l'hubris, c'est pas l'honneur, c'est pas l'orgueil. Non, c'est à un moment donné la construction, voire encore une fois dans l'état de droit, la co-construction. Et là, c'est terrible parce qu'on a un déficit de confiance réciproque. Vous avez un gouvernement courageux, c'est vrai, parce qu'il faut faire cette réforme. Elle n'est pas tenable. La solvabilité, entre guillemets, de notre système ne tient pas. Donc, pour protéger les travailleurs de demain, il faut repenser la chose. Mais en même temps, bien évidemment, il ne faut pas faire passer pour de la justice ce qui ne l'est pas nécessairement. Je veux dire, la pénibilité des uns et des autres, elle n'est pas au même endroit, on le sait. Donc, et vous avez un curseur du côté des mouvements sociaux qui ne fait pas confiance dans l'État, et puis un État qui ne fait pas confiance dans le système syndical pour représenter, pour négocier, etc. Et ce déficit comme ça de confiance, c'est un peu dur. Or, là aussi, le courage change de définition si le territoire de la confiance change. Il est évident, si vous voulez, que moins il y a de confiance, plus le courage, c'est de faire rupture et non pas de co-construire.
Et dans ce tableau, j'ai oublié les travailleurs courageux qui affrontent les intempéries et la marche à pied pour aller travailler faute de transport en Île-de-France. Il y a beaucoup d'imposteurs du courage, Cynthia Fleury.
Oui, de toute façon, il y a beaucoup d'imposteurs dans la vie de tous les jours.
Et puis, nous-mêmes.
Et puis nous-mêmes, il y a beaucoup de novlangues. De toute façon, c'est un monde qui instrumentalise tout. Donc c'est vrai que c'est difficile parce que le courage est instrumentalisé. Le dire vrai, le fait de dire la vérité est instrumentalisé aussi. Donc les mots sont là pour... c'est très orwellien, notre temps, si vous voulez. Vous allez parler de plan social pour licencier toute une partie des personnes. Vous allez expliquer que c'est universel, donc nécessairement juste, alors que non. C'est pas nécessairement juste parce que c'est universel. À un moment donné, il y a des questions d'égalité, d'équité. Donc, c'est pas simple. Déjà, la bataille des mots est pas simple parce qu'il faut récupérer la juste définition des mots.
Il y a une idée reçue qui veut que le courage, ce soit plutôt inné, qu'il y ait des gens courageux dans la vie et des pleutres. Est-ce que ça s'apprend, le courage ?
Oui, ça s'apprend, c'est absolument pas inné. Après, on ne va pas se mentir, il y a des tempéraments. Mais bien évidemment que c'est une histoire axiologique, et axiologique au sens où on transmet des valeurs. Bien évidemment, ça s'apprend. Et puis aussi, on s'entraîne au courage. Je le dis souvent à mes patients, parce qu'on perd, le réflexe du courage. On se dit, allez, bon, c'est pas grave, demain, une autre fois. Et puis petit à petit, on s'installe dans la capitulation. Donc de s'exercer régulièrement à être un peu désagréable, c'est pas une mauvaise chose.
Qu'est-ce que vous montrez de particulier dans la lecture, dans l'adaptation théâtrale ? Quelle est la leçon, dans quelle état d'esprit devrait sortir le spectateur de cette lecture ?
Ah, je crois que le but, c'était vraiment de redonner courage, hein, pour le coup.
Ouais.
Hein, c'était vraiment ça. C'était de montrer d'abord comment deux destins négocient avec le monde. Voilà, avec donc un journaliste en l'occurrence. Donc vous me direz peut-être si la négociation du journaliste est juste. C'est-à-dire, voilà, comment un journaliste a fait ce choix d'un pied dedans, un pied dehors, comment il utilise l'appareil pour précisément se libérer sur un autre, la négociation avec l'argent, etc. Et puis, le destin d'un professeur qui, lui, a choisi une autre manière de négocier. Voilà, donc ce sont deux destins comme ça qui sont un peu à bout, qui sont découragés et qui, par le truchement de leur rencontre et puis de leur confrontation aussi, de leur mise à l'épreuve réciproque, bah, vont retrouver le courage ensemble. Donc le but, c'était d'incarner ça. C'est vrai qu'un essai n'incarne pas, de fait. Hein. La fin du courage, on le lit, c'est un peu théorique. Là, tout d'un coup, c'est vivant. Bon, et puis c'est là, moi, je suis une amoureuse des acteurs. C'est extraordinaire de voir comme ça un objet autoporté comme ça par le talent des acteurs. Immédiatement, c'est émotionnel, mais c'est émotionnel au sens où c'est existentiel, quoi.
Vous n'auriez pas pu porter ça vous-même ? Vous n'auriez pas pu donner la réplique à Isabelle Agé ? Peut-être avez-vous manqué de courage, alors
J'ai manqué de talent, ça c'est certain. De courage, je ne sais pas, mais de talent, c'est certain. Et donc, non, là, Laure Calamy et Isabelle Adjani, c'est un bonheur absolu. En plus, il y a une espèce de dialogue, de dialectique entre elles, où elles se cherchent et tout. Non, et puis, le Nicolas Maury aussi, qui fait la mise en espace, voilà, et qu'on entend aussi, parce qu'il y a il y a un jeu de voix off et d'oreillettes, notamment, parce qu'il y a une confrontation sur un plateau de télévision, précisément comme lieu de négociation aussi avec le monde, et il est génial.
La fin du courage, Isabelle Adjani, Laure Calamy, à la Scala de Paris du 17 au 21 décembre. Merci beaucoup, Cynthia Fleury.
Merci à vous.